sur 103,5. Au Bas-Congo, lancement par le HCR la semaine dernière de l'opération vérification et enregistrement des réfugiés angolais d'origine kabylaise vivant dans le district du Bas-Fleuve à près de 80 km de Matadi. Objectif, actualiser la banque de données de 2004 en vue d'un prochain rapatriement volontaire. Il y a également qu'une équipe d'une dizaine d'agents du Haut Commissariat des réfugiés en RDC a été déployée sur 4 sites qui abritent ces réfugiés depuis 1973. Nous allons justement parler aujourd'hui avec vous, auditeurs de Radio Capi, parce qu'il y a une forte délégation de journalistes qui ont eu à effectuer dernièrement un séjour dans cette partie du Bas-Congo, notamment Gia Longuembo. Vous étiez dans cette grande équipe des journalistes,
oui, n'est-ce pas? On a accompagné le HCR dans ses activités de routine, comme on dit, parce qu'il revient à sa charge de pouvoir gérer les réfugiés. Nous avons été ensemble avec les collègues de la RTNC, de l'ACP et d'autres chaînes pour couvrir quand même cette opération et se faire vraiment une idée de ce qui s'est passé dans la forêt de Mayombe.
Et le voyage s'est bien passé?
Oui, tout à fait. Disons que tout a été impeccable. On a quitté Kinshasa à autour de midi. Nous avons fait 5 heures de voyage comme d'hab et nous sommes arrivés autour de 17 heures le même jeudi pour travailler avec l'équipe du HCR le vendredi matin jusqu'à 13 heures et le retour était prévu le soir. Donc on a encore traversé la forêt de Mayombe pour le sommet de retour 5 heures durant, disons avec
Alors parlons justement de ce voyage, Gia Longuembo. Nous savons que c'était pour l'opération vérification et enregistrement des réfugiés angolais par le HCR. Par deux fois, en l'espace de 4 ans, le HCR a procédé à l'opération vérification des réfugiés vivant dans le Bas-Congo. Mais pourquoi le rapatriement ne s'ensuit toujours pas?
En fait, Nicole, pour votre gouvernement, ces réfugiés ont en majorité fui la guerre qui a sévi à Cabinda un quart de siècle durant. Cette guerre la plus longue a pris officiellement fin le 4 avril 2002, quand les deux belligérants dans la guerre civile à l'Angola ont signé un traité de paix pour mettre fin à un conflit de 26 ans qui a commencé lors de l'accession à l'indépendance du pays en 1975. Vous comprenez donc que la présence de ces réfugiés qui sont arrivés pour le plus ancien sur le sol congolais autour des années 70 ne se justifie plus. Mais plusieurs observateurs de questions politiques parlent plutôt d'un calme relatif observé dans cette partie du continent africain. Et ceci expliquerait notamment la peur des uns et des autres de retourner volontairement à Cabinda. Par ailleurs, les HCR attendent de son côté l'accord tripartite entre le gouvernement congolais et angolais avec les HCR pour un éventuel rapatriement. Raison pour laquelle le Haut Commissariat pour les réfugiés ne croise pas les bras en attendant, il préfère actualiser son fichier de gestion des réfugiés. Question d'être prêt. Écoutons Clément Sebutimbiri, assistant à l'enregistrement.
Inspection physique, ont été enregistrés par les HCR en octobre 2004. Ils avaient été enregistrés par le passé, mais ils n'étaient pas encore dans une base de données HCR. Alors aujourd'hui, il est question que nous puissions vérifier, procéder à la vérification pour qu'on sache exactement qui sont encore là, parce que depuis 4 ans, il y a eu certainement des naissances, il y a eu des décès, il y a eu des départs spontanés, et il faut qu'on puisse mettre la base de données à jour et profiter de l'occasion pour prélever les intentions de retour des gens qui souhaiteraient rentrer dans leur pays d'origine. Ce n'est que les intentions. Et sur base de ces intentions, quand il y aura des réunions entre les deux États et la HCR, ils pourront se décider en connaissant le nombre de gens qui se sont exprimés pour les retours saisons.
Oui, quand il parle des intentions, en fait, il fait allusion au rapatriement volontaire.
Tout à fait, parce que quand on parle de rapatriement volontaire, la volonté doit partir de ce même réfugié. Est-ce qu'ils sont prêts pour retourner? Il ne faut pas oublier, il y a plusieurs aspects, peut-être au cours de cet entretien, nous allons revenir pour parler de Congolais qui ont eu le temps de contacter des mariages avec ces réfugiés.
Donc, il y en a aussi.
On va aborder ça au cours de cet entretien.
Okay. Alors, comment les concernés ont-ils accueilli les agents du HCR en mission pour cette fin?
Oui, commençons d'abord, Nicole, par signaler que cette étape de vérification et enregistrement sur les sites de Tekezole, et là où nous étions, intervient une semaine après celle de Lundu Matende et Kimbianga, deux autres sites qui abritent également les réfugiés angolais d'origine kabindaise. Plus d'un millier de réfugiés de Tekezole ont pris d'assaut l'école primaire qui porte le même nom, Enfin, pour les autres, pour les uns, donc se faire enregistrer, et pour les autres, passer à la vérification. Écoutez quelques-uns parmi eux à qui nous avions tendu notre micro, qui semblent tout de même être contents, mais qui n'ont pas hésité de mettre quelques inquiétudes quant à leur repatriement.
Et s'il y a des réfugiés qui veulent repatrier parce que c'est comme ici en RDC, il y a des côtés qui n'y a pas de la guerre, il y a des côtés qui a de la guerre. C'est pour cela qu'on peut avoir même quelques réfugiés qui peuvent manifester entre eux. Parce que ceux qui voient que dans mon village il y a encore de la guerre, ils ne peuvent pas manifester entre eux.
Je vais réfugier, oui. 2003, si on regarde ici, je vois les hommes quand même, ils disent bien, mais si on regarde ici, c'est auquel était. Bon, le collègue Moussa n'a pas encore une civilité, moi je peux se rapporter à ma lame, les athées.
Donc là, on a entendu deux réfugiés qui se sont exprimés en Lingala. Le premier nous a dit que lui, il ne rentrera que si la guerre est terminée en Angola. La guerre en Angola.
Oui, comme je l'ai dit tantôt, cette guerre la plus longue a pris officiellement fin le 4 avril 2002, quand les deux belligérants dans la guerre civile en Angola ont signé un traité de paix pour mettre fin à un conflit. Mais vous avez suivi le représentant de réfugiés, hein, M. Casimiro, qui insiste et dit c'est comme en RDC. Il y a des zones où il n'y a pas, il y a des parties où il n'y a pas de guerre, il y a des foyers, des tensions qui existent encore. Donc je crois que ça c'est une crainte. Bon, il y a plus de peur, hein, que des mal, mais tout pareil, il faudrait quand même qu'il y ait encore une autre sensibilisation de la part de l'ACF par rapport à cette situation.
Oui, parce que là, en suivant le deuxième réfugié nous a dit qu'il y a des cas de maladie. Hein,
donc la situation est très précaire, nous avons vu, et d'ailleurs le représentant de réfugiés que nous avons pu aborder, nous a laissé entendre que les HCR les a assistés qu'une seule fois, c'est-à-dire une seule année, le reste, ils n'ont bénéficié d'aucune assistance. Aujourd'hui, je te dis Nicole, la situation est loin d'être agréable.
Tout à fait. Alors, en quoi consiste concrètement cette opération de vérification et enregistrement, autrement dit, hier, comment ça se passe dans ce bureau du HCR?
Oui, justement, mis à part la salle ou lieu d'attente, trois bureaux sont installés, à savoir un bureau contrôle, un bureau litige et un bureau vérification. Après vérification du nom sur la liste et recherche du formulaire avec photo de 2004, le réfugié reçoit un jeton. Si le nom est sur la liste, il est dirigé directement vers le bureau vérification pour d'autres étapes afin d'obtenir une attestation de réfugié et sa classification. Dans les cas contraires, il est orienté directement vers le bureau de litige qui est composé d'un représentant de la CNR, du HCR, du président du comité des réfugiés et autres autorités locales. Je voulais suivre un cas de litige que nous avions enregistré en pleine séance dans le bureau de litige et juste après cette personne qui était passée au jeu des questions-réponses, il y aura l'intervention de la présidente de la commission de litige, Mme Angèle.
La commission est là pour régler un certain nombre de litiges. Nous avons plusieurs sortes de litiges, ça ce n'est qu'un cas. Nous avons le cas des enfants qui sont nés après le recensement, l'enregistrement de 2004 et nous les ajoutons. Puis nous avons les documents de l'état civil qui attestent que c'est bien l'enfant de la famille ou alors des témoignages parce que la plupart des réfugiés ici n'ont pas les attestations ou les actes de naissance. Mais nous nous contentons des témoignages, mais de plusieurs personnes dont je vous ai parlé, les autorités locales et le comité des réfugiés. Et à ce moment-là, nous inscrivons l'enfant. Nous avons aussi les cas des réfugiés qui sont mariés à des conjoints congolais. et là nous devons aussi le signaler, nous assurer qu'il s'agit bien de mariage et pas simplement d'union de fait. Nous assurer qu'il s'agit de mariage et comme ça on les signale dans notre base de données, même si on ne peut pas leur donner des attestations parce qu'ils ne sont pas réfugiés. Et là nous avons rencontré plusieurs cas de femmes congolaises mariées à des Angolais.
Voilà, donc là, c'était les explications données par une des responsables hein, au niveau de...
Oui, Angélique Tito, qui est la présidente de la commission de litige, qui est accompagnée par le représentant des réfugiés, ainsi que certaines autorités locales qui assistent, par exemple, à ces jeux de questions-réponses pour question d'avoir clair sur un dossier de cette question.
Mais oui, mais juste avant qu'elle n'intervienne, hier, on a suivi un échange, on n'a pas très bien saisi.
Et il y avait un refusé, il y avait des doutes autour de ses fils, hein, parce qu'il l'a déclaré comme fils qui est né après le premier recensement. Ben alors là, il y a eu un peu des zones d'ombre, et il fallait qu'on puisse insister pour avoir clair sur cette question. Alors je leur ai posé la question s'ils vont descendre sur le lieu pour vérification, parce que l'enfant est allé, non seulement il est né après la vérification, mais il est aux études en dehors du territoire. Donc il faudrait qu'on aille vérifier si effectivement il y a eu les certificats de naissance.
Oui. Alors, nous savons que le site de Tsékézolé est situé à près de 80 km de Matadi. Est-ce que ces réfugiés ont accès à l'électricité et à l'eau potable?
Oui, comme je l'ai dit, Casimiro Sito, c'est quand même le représentant de réfugiés. Il nous a laissé entendre que disons, toute la communauté, toutes ces personnes réfugiées vivent dans des conditions les plus déplorables. Vous imaginez, le HCR est intervenu, donc à assister depuis qu'on a placé ces personnes sur ce site. Une fois seulement, ils ont construit une bonne fontaine. Et aujourd'hui, vous imaginez même qu'ils ont voté le lac Patou n'a pas accès à l'électricité. Imaginez déjà les calvaires, la situation qui prévaut dans cette partie. Et là, il n'a pas mâché les mots pour cracher la vérité, pour dire qu'effectivement, le HCR est parti, il n'est plus revenu pour leur donner à manger les vivres comme par le passé.
Alors, on va évoluer sur la question, parce que nous savons constamment l'opération de rapatriement volontaire évolue, n'est-ce pas? Et ça se déroule sans difficulté?
Non, Nicole. Le manque du courant électrique, comme on vient de l'aborder, crée quelques perturbations dans les déroulements de l'opération. Nous allons entendre M. Diouf Gorgu, chef administratif du système informatique OSR.
En fait, quand le courant coupe, on arrête la saisie à notre niveau. Comme ça, il n'y a pas de corruption des données. Parce que à ce moment-là, si le courant reprend, on peut continuer la saisie. Mais dès que ça part, il faut que la saisie arrête. Bon, ça nous arrive de moins en moins, parce qu'on a des laptops vraiment dernier cri, des IBM T61 qui ont une très bonne capacité et puis une très bonne mémoire, et ils ne coupent plus. Par exemple, avant, on utilisait ces machines-là, les T42. Ils sont de moins performants. Et là, ça coupait souvent. Ce problème-là que vous évoquiez, ça arrivait souvent. Et là, c'était dangereux pour les données parce que ça coupait carrément. Il y avait une corruption des données et une perte aussi des données. Mais actuellement, avec les T61, on a vraiment moins de problèmes. Et ce qu'on rencontre souvent, c'est un peu lié à certains aspects au niveau du réseau.
Donc on craint que le HCR puisse rencontrer quelques difficultés pour bien évoluer dans cette opération.
Alors, disons pour les deux sites, notamment Matende, l'un de Matende et l'autre, il ne s'est pas posé de problème parce que l'opération s'est déroulée normalement et il est arrivé presque à la fin. Et là, au niveau de Tsékézolé, là où nous étions, nous imaginons aussi qu'à notre retour, tout se passe normalement. Là, on n'est pas resté pour la suite de l'opération.
Oui.
Et aujourd'hui, disons que c'est une autre étape. Hein.
Alors, l'opération va s'étendre jusqu'à quand?
En fait, comme l'a dit sur l'assistant à l'enregistrement, après le site Tsékézolé, c'est autour du site Afrique qui abritera le bureau forain du HR. En principe, c'est aujourd'hui, mardi, qu'il est prévu le démarrage de l'opération pour les réfugiés de Afrique. Et demain, mercredi, intervient la fin de l'opération dans le bas-fleuve. Voilà, Nicole.
Affaire à suivre avec nos invités. Nous avons le représentant du HCR en RDC, M. Esteb Onsoku, il est là pour répondre à toutes vos questions. Nous avons également un autre responsable au niveau du HCR.
C'est l'assistant du chargé de la communication.
Ok, donc il aura certainement des compléments d'informations à nous donner à ce sujet. Nous associons tous ceux qui nous suivent à travers le pays à réagir déjà avec leurs témoignages, leurs questions, toujours pour les SMS, bien sûr, au 081-070-2050. Quant à ceux qui souhaitent intervenir directement, alors là, appelez-nous au 081-890-63-94.
Plus d'informations, plus de sport, plus de culture, plus de musique, pour plus de plaisir sur Radio Okapi en onde courte, tous les matins de 5h à 7h, heure de l'Ouest, 6h, 8h à l'Est, sur 9635 kHz. Et tous les soirs, de 17h à 18h, heure de l'Ouest, 18h, 19h, heure de l'Est, sur 11890 kHz. Vous bougez, nous bougeons avec vous.
Et oui, Okapi Action fait le tour de la RDC pour vous informer, l'auditeur de Radio Okapi, raison pour laquelle, en ce moment, nous nous trouvons dans le Bas-Congo pour parler de cette opération, vérification et enregistrement des réfugiés angolais par le HCR. Vous savez que toute cette semaine est consacrée aux agences des Nations Unies. Nous recevons le HCR aujourd'hui en rapport avec cette journée qui sera célébrée dans quelques jours, le 24 octobre précisément. Nous commençons avec le HCR aujourd'hui pour faire aussi le bilan de tout ce qui a été fait par cette agence des Nations Unies à travers la RDC. Monsieur le représentant, Sève Osoku, vous êtes représentant du HCR, bonjour.
Bonjour.
Alors nous avons suivi tout à l'heure le dossier que nous a présenté Gia Longuebo sur cette opération de rapatriement, de vérification et enregistrement des réfugiés angolais par le HCR. Nous avons l'impression que l'opération évolue plutôt bien. Mais c'est juste une impression parce que les problèmes aussi ne manquent pas.
Hein. C'est juste, l'opération évolue assez bien, malgré tous les défis auxquels les collègues ont dû faire face sur le terrain, notamment les questions du manque d'accès, mais également quelquefois des discussions assez chaudes avec les réfugiés. Nous avons eu quelques inquiétudes à un moment donné, lorsque les réfugiés avaient commencé à dire qu'ils ne voulaient pas être enregistrés comme Angolais, mais comme Cabindais. Nous avons pu quand même aplanir cette difficulté en essayant de convaincre les réfugiés que jusque-là nous connaissons un pays, l'Angola, et que jusqu'à nouvel ordre, nous continuons à les enregistrer comme réfugiés angolais.
Oui, ces réfugiés sont dans quatre sites qu'on a eu à répertorier tout à l'heure. Nous avons parlé de Nsekezole, Nkwiki, Lundu Matende et Kimbianga. On peut connaître leur nombre exactement.
Voilà. Vous savez, la crise des réfugiés a toujours la guerre des chiffres. Récemment, nous avons eu une communication de leur pays d'origine qui nous parlait d'environ 16 000 réfugiés angolais d'origine cabindaise. Mais ces chiffres nous paraissaient un peu plus élevés que ce que nous avions trouvé en 2004. Et c'est d'ailleurs cela qui a provoqué un peu cette deuxième mission de vérification sur le terrain.
Mmh.
Actuellement, je dois vous dire qu'avec l'équipe du HCR qui est partie sur le terrain, une équipe conjointe HCR-CNR et à laquelle s'est ajoutée, ce sont avec les collègues de Radio Okapi, c'est pourquoi je vous exprime toute ma reconnaissance, toute ma gratitude. J'ai l'impression qu'on a eu plus de participants à la mission que le nombre de réfugiés enregistrés. Bon, cela dit, je crois que nous n'allons pas dépasser le chiffre de 2000 personnes que nous avions anticipé.
Dans les quatre sites.
Dans les quatre sites. Et cela ne nous étonne pas, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de va-et-vient. Mais les éléments permanents, les gens qui sont vraiment restés, les reliquats, ils n'en ont vu pratiquement, je pense qu'on aura autour de 2000-2500 personnes au maximum.
Mmh. L'opération sur le terrain se déroule plutôt bien, parce que là, tout à l'heure, Julien nous a dit que ça prendra fin le mercredi, hein,
c'est
demain.
C'est demain, ça prendra fin, et je pense que nous aurons couvert l'essentiel de la présence des réfugiés d'origine cabindaise dans la région. Je crois que, en tout cas, au Bas-Fleuve, nous aurons fait l'essentiel.
On parle d'un retour volontaire, mais combien sont prêts à retourner volontairement en Angola?
Selon les premiers chiffres que nous avons reçus, c'est à peu près 50% des personnes enregistrées qui seraient prêtes à rentrer. Cela dit, il faut placer ceci dans le cadre global de la présence de réfugiés angolais en République démocratique du Congo. comme vous le savez, les Angolais sont, disons, les réfugiés angolais font partie des tout premiers réfugiés que le Zaïd alors avait accueillis. Nous en avons rapatrié énormément. En 2007, nous avons malheureusement dû suspendre moins de rapatriement parce que, d'abord par manque de fonds et aussi à un moment donné, on n'a pas pu s'entendre avec toutes les parties pour pouvoir poursuivre le mouvement. Mais il y a actuellement beaucoup de bonne volonté, notamment de la part du gouvernement angolais, pour que le mouvement reprenne, pour que le rapatriement de l'ensemble des.
C'est d'abord que le gouvernement angolais accepte de les récupérer.
Oui, ils ont déjà accepté de les récupérer. Ils ont déjà accepté de relancer le mouvement, non seulement de rapatriement, non seulement des réfugiés d'origine cabindaise, mais de l'ensemble des réfugiés angolais qui se trouvent ici, à l'UDC.
Et pourquoi cette particularité des réfugiés d'origine cabindaise et non d'origine angolaise?
Vous savez, entre le lieu de libération en Angola a cette spécificité, et à un moment donné, je crois qu'il y a eu des négociations, des discussions entre le gouvernement de Luanda et des éléments de Kabinda qui n'étaient pas nécessairement pour le processus à Angola. Mais cette discussion, il y a eu récemment un accord qui a été signé. Et suite à cet accord-là, justement, le gouvernement angolais a vraiment décidé d'aller de l'avant, à faire en sorte que vraiment tous ceux qui sont à l'extérieur et qui désirent rentrer chez eux puissent le faire.
Oui, parce qu'aujourd'hui, vous dites que 50% souhaiteraient rentrer chez eux. Il y a de quoi, hein, parce que parlant des conditions de vie de ces réfugiés dans les quatre sites, ces conditions ne sont pas des conditions, je dirais, acceptables. Tout à l'heure, JR nous a dit que il n'y a pas de courant, il y a aussi peut-être des problèmes de l'eau potable, des problèmes d'hébergement. Vous avez été dans ces sites vous-même pour vérifier tout ça?
Je ne suis pas allé dans tous les sites. Si vous allez dans tous les sites au Congo, c'est un peu désolant. Mais je sais que au bas, effectivement, la situation n'est pas bonne. Nous n'avons pas un bureau. Nous avons fermé nos bureaux au bas Congo. Nous avions un bureau assez important à Kinshasa qui nous permettait de couvrir de façon plus plus rationnelle toute cette partie du Bas-Congo. C'est d'ailleurs à partir du bureau de Kinshasa que nous avons pu organiser le rapatriement de la vaste majorité des réfugiés congolais. Les conditions ne sont pas bonnes, c'est vrai, mais bon, je peux vous dire aussi qu'il y a beaucoup de Congolais qui n'ont pas accès à l'eau autant qu'ils auraient voulu, ni à l'électricité autant qu'ils auraient voulu.
Oui, mais il ne faut pas mélanger les choses, monsieur le représentant. Ces gens-là, ils ont tout perdu et ils sont pris en charge par l'UACR en fonction des moyens alloués au ACR. Alors bon, quand les conditions ne sont pas acceptables, on y comprend rien, alors que l'ACR aurait pu les mettre dans de bonnes conditions.
Je crois que je vous ai dit ici qu'il faut éviter de faire des réfugiés des privilégiés par rapport aux populations qui les accueillent. Il est évident que si vous allez dans le site que vous allez visiter, si vous voyez en fait de ce site une sorte d'îlot de prospérité, eau, électricité, etc., alors que tout autour, les populations environnantes n'ont rien de tout ça, nous allons plus créer de problèmes ou autre chose.
Il ne faut pas faire un mouroir.
Ce n'est pas fait exprès, on n'a pas de mouroir, mais ce qu'on a en fait, c'est que l'assistance qu'on apporte à cette partie de la population réfugiée est proportionnelle à ce que nous recevons comme.
Vous parlez de l'assistance. Mais qu'est-ce que vous leur apportez concrètement à ces réfugiés répertoriés dans les quatre sites, près de 2000 réfugiés, vous avez dit?
Cette assistance est essentiellement communautaire, parce que, vous savez, les réfugiés, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que chaque personne soit prise en charge de façon individuelle. Nous essayons d'éviter cela, et lorsque les réfugiés sont assez nombreux à un endroit bien précis, nous intervenons en termes d'eau potable, en termes de soins de santé, etc., ou des institutions qui également, des structures dont doivent profiter également les populations locales, les populations d'accueil, les populations environnementales. Donc on essaye de faire en sorte que les services s'intègrent dans la population locale. D'ailleurs, vous avez bien dit, plusieurs d'entre eux sont là depuis 1973.
Et 30 ans qu'ils sont au Congo.
Oui, mais on se serait attendu à ce qu'ils soient, ils vivent dans les mêmes conditions que les populations d'accueil, qu'ils aient, les enfants aillent dans les mêmes écoles, et que si le HCR a le moyen de le faire, qu'on réhabilite cette école-là, qui va servir aussi bien aux réfugiés qu'aux populations d'accueil.
Mais oui, ce serait bien qu'il y ait cette intégration des réfugiés, surtout pour ceux-là qui vivent depuis plus de 30 ans au Congo. Mais est-ce qu'il y a des facilités pour ces gens-là de s'intégrer? Est-ce que le HCR les accompagne de cette intégration de ce représentant?
Nous avons accompagné les réfugiés angolais dans leur intégration locale plusieurs fois. Mais vous savez, c'est un peu comme le mythe de Sisyphe, il faut recommencer de façon soutenue. Mais je crois que nous allons maintenant vers la dernière ligne droite, notamment lorsque le gouvernement angolais aura sifflé vraiment la fin de l'opération du rapatriement, que nous aurons rapatrié ceux qui le désirent en totalité, et que nous aurions alors un reliquat des gens qui nous auront dit, c'est d'ailleurs un début de l'opération, qui nous diront nous ne voulons plus rentrer chez nous, nous voulons nous installer au Congo. Alors, il y aura un programme cohérent d'assistance à l'intégration locale.
Pour certains observateurs, l'idéal aurait été de pouvoir en amont déjà avoir le quitus de cette réunion tripartite, donc entre les HCR, le gouvernement angolais et le gouvernement congolais, avant de procéder à la vérification et à l'enregistrement. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait encore longtemps, parce que évidemment ça risquerait de décourager aussi certains réfugiés, parce qu'ils diront bon, il n'y a pas eu un, il n'y a pas un sans deux, il y aura deux, et puis une troisième vérification, finalement c'est du bien, c'est parce qu'il n'y aura pas de rapatriement.
Il n'y aura pas une troisième vérification.
Ça vous le confirmez qu'il n'y aura pas une troisième?
Je pense qu'il n'y aura pas, puisque nous avons déjà enregistré l'ensemble des réfugiés angolais au Bas-Congo. Et nous sommes arrivés à un chiffre de 150 000 personnes. De ces 150 000, il y avait à peu près 100 000 qui voulaient rentrer chez elles. Et de ces 100 000, nous avions identifié à peu près 21 000 vulnérables que nous avions pris l'engagement d'aider à rentrer chez eux. Cette opération a commencé. C'est ça qui a été suspendu, disons, sous décision des autorités angolaises. Nous avons rapatrié à peu près 9 000 personnes sur les 21 000. Vous savez également que depuis lors, il y a eu énormément de départs, disons, spontanés, des gens qui sont rentrés chez eux. Alors, l'opération d'enregistrement dont nous parlons actuellement, j'ai complété l'opération que nous avons déjà faite en 2007 et qui nous a permis de rapatrier plus de 9 000 personnes. Donc ça vient compléter le dossier et nous voulons maintenant sortir.
Est-ce que vous pensez qu'à court terme, ce rapatriement s'en suivra?
Absolument, absolument. Ce rapatriement, je le vois absolument avoir lieu en 2009. Absolument.
Alors, nous en profitons, M. Seydou Nsoukou, en tant que représentant du HCR, pour faire également le bilan ailleurs au Congo, parce que nous allons commémorer la journée des Nations Unies le 24 octobre prochain. Mais déjà, on reçoit quelques agences, notamment vous, en tant que représentant du HCR, pour en parler, pour parler des problèmes que vous avez. Et à ce sujet, il y a certaines réactions qui nous viennent de partout, parce que vous êtes très suivis. Les actions du HCR sont très suivies en RTC. Il y a un auditeur qui nous dit, lorsqu'il s'agit des réfugiés d'autres pays qui se trouvent chez nous, c'est l'HCR qui est toujours présent et l'opération se déroule sans problème. Mais pourquoi le HCR n'est pas là où les Congolais sont expulsés de manière humaine, comme c'est le cas en Angola?
Bien, je prends note de cette question.
Oui.
Les personnes qui sont expulsées, disons, en militari de l'Angola, je me suis rapproché de nos collègues du bureau du HCR en Angola pour savoir si c'est des réfugiés ou non, ou s'il y avait des réfugiés parmi ces personnes ou non. Je n'ai pas eu une réponse positive à cette question. Alors, il y a, comme vous le savez, un flux migratoire assez soutenu entre les deux pays. Et lorsqu'il s'agit des personnes congolaises qui sont expulsées de pays voisins, notamment en Angola, par le seul, nous essayons d'encourager les autorités concernées à entretenir un dialogue avec les pays qui expulsent ces nationaux. Parce que je pense que c'est un peu le meilleur cadre.
Oui, il y a eu plusieurs expulsions des Congolais en Angola, notamment. Et on l'a dit à travers les médias, tous les médias en ont parlé, ces expulsions étaient inhumaines, monsieur le représentant.
Oui, la communauté humanitaire au Congo n'est pas restée les bras croisés devant ces expulsions. Il y a eu énormément de missions conjointes, parce que là, ce n'est plus une question d'une seule agence, c'est l'ensemble de la communauté humanitaire qui s'en occupe. Il y a eu plusieurs missions dans les zones où arrivent les Congolais qui sont expulsés d'Angola. beaucoup de travail a été fait, aussi bien dans le cadre du Pool Fund que dans le cadre des agences. Par exemple, je sais que Caritas a fait énormément de travail dans ce sens. Je sais que nos collègues de Lubumbashi sont absolument engagés dans ce processus conjoint interagence pour faire en sorte qu'on diminue au moins les souffrances des personnes qui viennent.
Et là, curieusement, il n'y a pas eu de rapatriement volontaire. C'était un rapatriement forcé, mano militari.
Le rapatriement volontaire dont nous parlons concerne les réfugiés, c'est-à-dire les personnes qui ont traversé la frontière et qui sont reconnues comme réfugiés dans le pays d'asile. Ce n'est pas le cas ici. Il s'agit de Congolais qui ont traversé pour des raisons diverses.
Ils se sont intégrés en Angola.
C'est possible que plusieurs d'entre eux se soient intégrés, mais également les interviews montrent qu'il y a des gens qui sont allés de façon tout à fait récente et qui ont dû revenir. Et vous savez aussi que c'est un mouvement qui se répète un peu. Hein. Les gens sont expulsés aujourd'hui, ils restent dans leur zone, dans leur village d'origine. Et puis, quelques temps après, bon, dépendant des conditions, il y en a qui peuvent repartir. Donc, ce flux migratoire, nous essayons de le gérer, enfin, disons, de l'observer au moins.
Est-ce que vous gérez bien la situation? Parce que comment expliquer que lorsqu'il y a ces expulsions en masse inhumaines, le HCR n'intervient pas?
Le HCR ne peut pas intervenir seul en tant qu'agence. On ne parle pas de réfugiés qui reviennent de l'Angola. On parle de personnes qui ont quitté le Congo pour des raisons différentes, des raisons qui auraient pu en faire des réfugiés. Mais le HCR ne reste pas les bras croisés, ne reste pas indifférent à la souffrance de ces personnes lorsqu'elles reviennent. C'est tout ça, tout ce qui est fait dans le cadre d'interagence pour assister ces personnes.
Oui, Seb, nous rappelons que vous êtes le représentant du HCR en RDC. Pour évoluer sur la question, nous savons qu'à Ovira, depuis le 25 septembre, plusieurs rapatriés passent la nuit à la Belle Étoile parce que la capacité d'accueil du centre est débordée. Ce sont des réfugiés qui étaient dans le centre de transit de Baraka. Vous êtes informé de la situation. Alors nous avons un témoignage que nous vous invitons à suivre.
Au niveau du mois passé, il y a un convoi de la nuit du 25 septembre qui a débordé le centre de transit de Baraka et beaucoup de rapatriés ont passé la nuit à la Belle Étoile parce que la capacité d'accueil de ce centre a été débordée. Quand il a plu la nuit, beaucoup de rapatriés cette nuit ont beaucoup souffert. Le 136e convoi dernièrement qui a connu des problèmes au niveau de ce centre de transit de Mushimbaki, plus de 20 familles avaient confirmé que leurs effets étaient abîmés dans ce centre parce qu'il a plu et surtout de vivre. Donc le même problème est là parce que ça se répétait. Beaucoup de familles ont vu leur vie abîmée par l'eau et le lendemain ils étaient embarqués dans différentes directions dans les zones de retour et il n'y a pas eu de récupération de ces vivres. Donc tout ça c'est à déplorer.
Donc il arrive que le HCR soit débordé, hein, n'est-ce pas?
Écoutez, je crois que la personne que vous avez interviewée a bien dit qu'il s'agissait du 136e convoi, n'est-ce pas? Bon, on a quand même fait beaucoup de chemin pour arriver à 136 convois qui nous ont permis de rapatrier à peu près 60 000 personnes maintenant, hein, de la Tanzanie. Ça veut dire qu'il peut y avoir des bavures. Je dois vous dire que cet an dernier, le nombre de fois que le bateau arrive de Kigoma est passé de 1 à 3. Les collègues de la Tanzanie nous parlent même de 4 convois, etc., la possibilité de 4 convois. Donc, c'est une augmentation assez rapide du nombre de rapatriés par semaine. C'est cela qui a fait que nous avons pu avoir quelques problèmes au niveau du centre de transit. Mais ces problèmes sont maintenant réglés, dans la mesure où nous avons pu convaincre nos collègues de la Tanzanie de la capacité du centre de transit afin d'éviter justement que nous soyons débordés. Sinon, nous allions régulièrement vers 4 convois par semaine, ce qui ne nous aurait pas permis de gérer l'opération de façon convenable.
Voilà, donc on a déjà eu à mettre la série devant le bœuf, à devancer un peu les choses. Nous allons peut-être nous rendre tout de suite d'ailleurs à Ouvira pour nous faire déjà une idée générale de la situation.
Oui,
voilà, donc j'ai quand même le temps pour nous de prendre Fiston Goma qui est avec nous dans quelques instants. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez participer à cette émission, apporter peut-être votre contribution autour de la question. En prévision de la journée des Nations Unies, nous faisons défiler tour à tour les agences des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est le HCR, le Haut Commissariat pour les Réfugiés qui est en honneur, sous maison des radios Okapi, dans le cadre de notre émission Okapi Action. Mais rappelons que nous avons fait un tour au Bas-Congo où nous avons assisté participer à l'opération vérification et enregistrement des réfugiés angolais, disons, d'origine kabylaise, qui abrite les sites de Fiki, Lundu Matembe, Tsekezole et tant d'autres. Vous avez suivi le reportage que nous avons fait, donc la réception que nous avons faite autour de cela, par rapport à ce voyage, ce déplacement que nous avons effectué. Mais aux côtés d'Ouvira, il y a également une situation que nous avions voulu vous faire découvrir. Dans un instant, donc, restez avec nous si vous le suivez sur la net. Écrivez-nous à action@radiocabi.net. Voilà, donc on attend que Fiston Goma soit avec nous, donc dans quelques instants. Nous allons retrouver Fiston Goma, mais retenez que au sud de Kivu, là nous sommes au sud de Kivu, dans les territoires d'Ouvira et de Fizi, les actions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont appréciées par rapport par la population locale depuis le mois d'octobre 2005, lors du lancement des opérations des rapatriements jusqu'à ces jours. La présence des ONG et partenaires du ICER ont contribué non seulement à la relance des activités économiques, mais ont également redonné de l'espoir à la population après les conflits armés dans cette partie du pays. Cependant, quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain pour le rapatriement volontaire des réfugiés? Fiston Goma, vous êtes avec nous. Bonjour Fiston. Voilà, donc Fiston Goma sera avec nous, dit-on, dans quelques instants, mais disons que dans les plans de travail du ICER, il était prévu de recevoir 2 convois par semaine, mais depuis que des activités de sensibilisation sont effectuées en amont dans les camps des réfugiés en Tanzanie, le nombre de Congolais candidats au retour volontaire s'est accru. Alors comment la situation se présente sur le terrain à Fiji? Est-ce que Fiston est encore avec nous? Ben voilà, alors donc nous allons peut-être reposer la question à notre invité qui est sur place. Mais il faut signaler, Nicole, selon nos sources, que le nombre de convois par semaine est passé de 2 à 3 en raison de près de 500 personnes par convoi, alors que la capacité d'accueil du centre de transit est restée la même. La société civile évoque ici quelques conséquences de cet épiphénomène dans les sites de transit de Mushimbake. On écoute Évariste Fonet, acteur de la société civile en territoire de Fizi.
Par rapport à l'accord de transit, il y avait un certain nombre de kits qu'on devrait donner, vivre et non vivre. Mais par rapport à la fréquence, maintenant, ça pose problème autour des commandes. Le PAM, par rapport à toutes les prévisions et aux différentes commandes, n'arrive pas à réaliser, compte tenu du nombre de gens qui reviennent par semaine. Donc, de fois, on peut venir, on a reçu un certain nombre de sacs, parce que ça devrait passer de 3 à 6 mois, mais pour le moment, le PAM n'a pas encore réalisé ce qui a été décidé à l'accord du PAM. Et ça peut se passer comme ça, une semaine après, on va encore donner aux gens qui sont déjà partis par rapport à leur ration les 3 mois. Donc, il y a un peu rupture de stock de foie et ça diminue les quantités. Mais quant au non-vivre sur les kits abri, ça pose aussi des problèmes parce qu'on ne donne pas à tout le monde bien sûr, mais le nombre de portes de fenêtres aussi des tôles par rapport au comment ça peut faire un retard.
Voilà, en dehors de conditions de prise en charge des rapatriés dans les centres de transit de Mushimbake, est-ce qu'il y a d'autres difficultés, notamment sur la protection et l'assistance des rapatriés? Ça, c'est pratiquement la préoccupation de plus d'un observateur, mais selon nos sources, la plupart des rapatriés ont été dépossédés de leur parcelle ou leur maison. Aujourd'hui, malgré les lotissements effectués dans Baraka, Mwadiga et ailleurs à Fizi, les conflits fonciers est considéré comme une bombe à retardement qui pourrait exploser un jour. Alors, nous allons suivre Alfred Efoloko Bongwalanga, administrateur du territoire de Fizi.
Pour cette année, comme le camp de Rougoufou a été fermé, nous pensons amener les mêmes écoles-là, les implanter au niveau de Fizi avec tous ces élèves, avec les mêmes enseignants. À ce moment-là, peut-être on pourra demander les agréments de ces écoles et si l'autorité internationale et provinciale pourra accepter. C'est ça la seule voie que nous pensons suivre pour cette année, parce que celle que nous avons préconisée l'année passée, jusque-là, elle n'est pas encore répondu et nous attendons.
Voilà, la question, si les acheteurs continuent à prendre en charge des enfants scolarisés, comme ce fut le cas en Tanzanie. Là, pratiquement, c'est également une autre préoccupation, mais selon nos sources, les acheteurs est mieux placé pour nous en parler, donc nous donner des détails là-dessus. Mais on écoute d'abord M. Lulonga, ou Alulonga, qui préconise d'autres voies de sortie à ces problèmes pour cette année scolaire. Voilà, donc M. Lulonga n'est pas là avec nous, donc nous réactionnons du côté.
On va certainement l'écouter tout à l'heure.
Hein. Voilà, donc on va donner la parole à notre invité qui est dans le studio, M. Eseb Osokoukou, représentant du HCR. Vous avez suivi ces reportages. Quel est le commentaire que vous faites personnellement?
Et ma première observation, c'est que rares sont les œuvres humaines qui sont parfaites, qui ne sont pas critiquables du tout. C'est vrai que un certain nombre d'actions ont été prises du côté des sites de réfugiés en Tanzanie qui ont augmenté de façon assez remarquable le taux de rapatriement par semaine. Ça veut dire également que ce qui va augmenter de l'autre côté, c'est le défi. Parce que on ne réintègre pas 500 personnes par semaine de la même façon qu'on réintègre 1500 personnes par semaine. Ça veut dire qu'il y a un défi, ça veut dire qu'il y a augmentation du problème de l'autre côté. Alors, c'est vrai aussi que la capacité du centre, nous avons besoin de l'augmenter. Nous avions d'ailleurs prévu deux centres auparavant. Mais lorsqu'on avait un seul convoi par semaine, ça ne servait à rien d'entretenir deux centres.
Mmh.
Alors, si le mouvement actuel se poursuivait, je pense qu'en 2009, nous allons réfléchir à la possibilité soit d'agrandir le centre existant, soit alors de construire un deuxième centre. Mais je ne suis pas sûr qu'on arrive déjà à cela.
Mais il y a combien de nationalités, finalement, qu'on peut relever à l'est du pays, monsieur le représentant?
Comme de nationalités
parmi les réfugiés.
Ce sont les réfugiés congolais qui rentrent. Ce sont les réfugiés congolais qui reviennent de Tanzanie.
Mm.
Donc, généralement, ils retournent dans la région de Baraka, de Kisi. Mm. Donc, nous avons affaire normalement à l'immense, en basse majorité, à des Bembe. Donc, c'est cette nationalité que nous avons.
Et vous arrivez quand même à les suivre, ceux qui sont en Tanzanie? Vous arrivez quand même à avoir un regard sur eux avant qu'ils ne rentrent au Congo?
Oui, nous faisons régulièrement des réunions transfrontalières avec le bureau de Tanzanie et nos collègues de Baraka, d'Uvira et de Bukavu se rendent régulièrement. D'ailleurs, on a organisé récemment une visite où le gouverneur de la province du Sud Kivu s'est rendu en personne dans le site. Ça veut dire que nous avons quand même des rapports de proximité avec les réfugiés déjà dans le clan pour connaître un peu leurs habitudes, les genres de formation qu'ils ont. Et ça nous permet également de réorienter normalement nos activités de réintégration restaurant en prison.
Oui. Alors, est-ce qu'on peut connaître le nombre de ces réfugiés congolais qui sont localisés en Tanzanie? Vous avez un chiffre précis?
Oui. Au début de l'opération en 2005, en avril 2005, ou bien en octobre 2005, nous étions 150 000 personnes.
150 000 personnes.
Oui.
Ce ne sont pas des chiffres qu'on a exagérés.
Non, pas du tout. Pas du tout.
C'est ce que vous l'avez dit. Hein, oui, il arrive des fois qu'on exagère ces chiffres.
Oui, c'est pas la guerre.
C'est la guerre. On fait une préoccupation où, selon nos sources, disons, le HCR à Bandaka allait fermer, et à Ifondo également, parce que la question sur les réfugiés ne se posait plus avec acuité comme c'est le cas sur notre site. Est-ce que vous me confirmez cette information?
Bandaka et où?
Et Ifondo, à côté ici.
En Mbandaka, nous n'avons plus de réfugiés. Bon, nous avions ouvert le bureau de Mbandaka parce que nous avions des réfugiés congolais qui étaient en République du Congo, donc du côté de Nkondo, de Lokelela et de Beto. Ces bureaux sont déjà soit fermés, soit sur le point d'être fermés au Congo. En République du Congo, parce que le nombre de réfugiés a diminué de façon sensible. Pourquoi est-ce que nous allons maintenir nos bureaux d'accueil ouverts si les bureaux qui nous approvisionnent en rapatriés ferment eux-mêmes?
Ouais.
Donc nous essayons d'établir, de maintenir un équilibre assez correct entre le pays d'asile des réfugiés et nous qui sommes le pays d'origine et le pays d'accueil.
Mais aujourd'hui, s'il faut vraiment faire le bilan de l'activité du HCR, vous vous donnerez vous-même personnellement quelle note?
C'est combien?
C'est 10.
Je crois que je peux nous donner, je pense qu'on peut aller jusqu'à 7.
Jusqu'à 7.
Mais vous n'êtes pas, vous risquez d'être déçu parce que la population congolaise juste d'être autrement, hein. Parce que par rapport au nombre toujours croissant des réfugiés, etc., les humanitaires, d'après ce qu'on a appris, sont débordés par rapport aux besoins qui se posent. Parce que le représentant, on va, il faudrait plus suivre le témoignage d'une personne à ce sujet. Voilà, donc on va certainement écouter le témoignage de cette personne qui a bien souhaité intervenir aujourd'hui hein, pour ce problème concernant justement les réfugiés congolais. Nous invitons tous ceux qui nous suivent à travers le pays aussi à réagir au 081 070 20 50. Et pour ceux-là qui nous suivent à travers les autres coins du monde, ils peuvent écrire hein, également à l'adresse email action@radiopublic.net. En attendant qu'il y ait cette intervention, monsieur le représentant, nous allons évoluer sur la question parce que parlant de ces réfugiés dont le nombre toujours croissant, curieusement, il y a bon nombre de gens qui estiment que le HCR exagère parfois ses chiffres pour augmenter en fait son budget.
Quand vous dites le nombre de réfugiés croissant, ça veut dire quoi? Le nombre de personnes que nous aidons à rentrer au Congo augmente?
Tout à fait.
C'est un chiffre qui est normalement en parfaite harmonie avec le site sur lequel nous sommes entendus, avec les bureaux du HCR dans les pays d'asile. Par exemple, en début de chaque année, nous avons une réunion avec tous les bureaux de tous les pays voisins qui ont des réfugiés congolais.
Mmh.
Et nous entendons sur un chiffre indicatif de personnes, un nombre indicatif de personnes à rapatrier l'année suivante. Ces chiffres sont en train d'être confectionnés déjà pour 2009. Alors, nous ne pouvons pas augmenter les chiffres parce que si nous avons dit au début qu'il y avait 150 000 personnes dans les sites en Tanzanie, et je vous dis aujourd'hui, par exemple, qu'on a déjà rapatrié 60 000 ou 100 000, je ne peux pas vous redire demain qu'il y a encore 150 000 personnes. Donc, même si nous inventons les chiffres, nous commençons d'un nombre bien précis, et tout le monde sait faire la frustration, n'est-ce pas? Et si on enlève, disons...
Donc, il n'y a pas d'exagération.
Non, je pense pas.
Mais sur le terrain, il faut reconnaître qu'il y a quand même des débordements dans le travail des humanitaires. On a pu avoir ce témoignage, finalement, on va l'écouter.
Par rapport à l'accord tripartite, il y avait un certain nombre de kits qu'on devrait donner, vivre et non vivre. Mais par rapport à la fréquence, maintenant, ça pose problème autour des commandes. Les PAM, par rapport à toutes les prévisions et aux différentes commandes, n'arrivent pas à réaliser, compte tenu du nombre de gens qui reviennent par semaine. Donc, de fois, on peut venir, on a reçu un certain nombre de sacs, parce que ça devrait passer de 3 à 6 mois, mais pour le moment, les PAM n'a pas encore réalisé ce qui a été décidé à l'accord du parti. Et ça peut se passer comme ça une semaine après, on va encore donner aux gens qui sont déjà partis par rapport à leur ration les 3 mois. Donc, il y a un peu rupture de stock de fois et ça diminue les quantités. Mais quant au non-vivre sur les kits abri, ça pose aussi des problèmes parce qu'on ne donne pas à tout le monde bien sûr, mais le nombre de portes de fenêtres aussi de tôles par rapport au comment ça peut faire un retard.
Voilà, la situation, très souvent, la coordination est mal assurée. Hein. C'est la pression que nous avons.
La coordination dépend de qui fait quoi et de quelle agence à quoi exactement. L'intervenant mentionne les décisions prises à la réunion tripartite entre la Tanzanie, la RDC et le HCR. Cette réunion avait effectivement recommandé. À cette réunion, nous étions préoccupés par le nombre très peu élevé de personnes qui rentraient. Au mois de cette réunion, nous avions en janvier. Jusqu'au mois de juin, nous avions 2000, on avait à peu près 2000 personnes qui étaient rentrées. Donc, de janvier à juin, nous avons rapatrié 2000 personnes, 1800 personnes de la Tanzanie. Et bon, je ne suis pas augmenté. Alors, à la réunion qui est partie, indiquée par l'intervenant, nous avions donc cherché quels étaient les moyens, les nouvelles initiatives qu'on pouvait prendre pour pouvoir augmenter le nombre de rapatriés. Parmi ces initiatives, la réunion avait recommandé l'augmentation du nombre de mois d'assistance en vie, donc qui va passer de 3 à 6 mois. C'était juste une recommandation. Ce qui n'est pas encore mise en œuvre dans la mesure où tout ça, la mise en œuvre dépend de beaucoup de facteurs. Il faut que le programme alimentaire mondial donne son accord. Il faut que le programme alimentaire mondial ait les livres qu'il faut, le moment où il faut se faire. À un moment où la crise est connue, où la pression sur les livres est connue, où déjà au niveau des déplacés internes à Goma, on donne peut-être demi ration, etc. Donc, tout cela doit être placé dans un contexte bien précis. Et je ne dis pas que la réunion est partie de recommander pour que ce soit fait. Donc, la mise en œuvre. Nous avions aussi dit que nous devions augmenter, nous devions ajouter le matériel de construction au kit du groupe donneur aux réfugiés. Et je crois que ça nous a permis d'augmenter effectivement le nombre de rapatriés, en plus des opérations en cours du côté de la Tanzanie.
Alors, c'est bien parce que là, on a juste quelques précisions à apporter à nos auditeurs, hein, qui peuvent donc intervenir au 081 070 2050 pour envoyer leur SMS. Nous avons déjà quelques SMS ici dans ce studio qu'on va lire au fur et à mesure. Et pour ceux qui souhaitent intervenir directement, ils peuvent nous appeler au 081 890 63 94. Alors, juste une question d'un auditeur, monsieur le représentant. Cette année, combien de fonds ont été alloués au HCR pour l'assistance aux réfugiés?
Et pour compléter cet auditeur, si ce n'est pas un secret, le HCR qui vient en appui à notre gouvernement assiste notre gouvernement à hauteur de quel pourcentage?
D'accord, je suis très content que cette question soit soulevée. Nos opérations se font de façon décentralisée. Ça veut dire, par exemple, que pour l'appartement des réfugiés congolais qui viennent de la Tanzanie, on a un montant global indicatif pour ces opérations. Comme vous savez, nous appartenons également des réfugiés congolais de la Zambie, donc ils sont également d'avoir un budget de ce côté. Vous savez que nous intervenons aussi à Goma, avec la dépression interne, nous avons un budget pour ça. C'est des budgets qui évoluent au fur et à mesure que les budgets augmentent. Vous avez dit tout à l'heure.
Oui. Et vous nous donnerez certainement des chiffres, hein. En fonction de tout ce qui est passé. Nous poursuivons en attendant avec notre invité. Nous rappelons l'histoire de Radio Capi que nous recevons le représentant du HCR, M. Eseb Onsoku. Et nous sommes en train de faire le bilan des actions du HCR, hein, depuis le début de l'année 2008. Comment ça va s'étendre? C'est juste en rapport, en fait, avec la journée des Nations Unies célébrée le 24 octobre prochain, que nous sommes déjà en train d'en parler. On reçoit au fur et à mesure des agences des Nations Unies. Demain, nous recevrons également dans ce studio une autre agence des Nations Unies. Gérard Moulembo, on avait posé une question précise.
Oui, tout à fait. Par rapport à la participation du HCR aux activités donc de la gestion des réfugiés ou des déplacés, est-ce que les HCR aident notre gouvernement? Je vous donne un exemple, à hauteur de combien, quelle est votre participation? Et comme l'a dit cet auditeur, quel est le chiffre qui est souvent alloué pour ce genre d'activité au niveau des HCR?
Je pense qu'il n'est pas juste de demander un chiffre définitif. Comme je vous l'ai dit, les budgets sont rendus au fur et à mesure que les problèmes se posent. Tout à l'heure, dans les informations, vous avez annoncé la fuite, encore une fois, malheureusement, des personnes déplacées qui partent de l'Ituri et qui arrivent probablement vers le Grand Nord, etc., etc. C'est une situation auxquelles il faut se réajuster.
Il y a déjà le programme Omani a proposé un plan des stratégies de plus et des suivis. Donc, vous serez également peut-être associé.
Nous sommes associés à ça. Nous sommes, si vous voulez que le programme parle à un moment donné des déplacés internes, je peux vous dire exactement ce qu'on fait. Donc, le budget dans les différents pays ont plusieurs volets. Il y a d'abord le volet complètement du personnel, mais également et surtout le volet opération. Ce que nous essayons de faire, c'est d'établir un équilibre assez correct, que la plus grande partie des fonds aille aux opérations sur le terrain. Et ça, je peux vous le garantir. Donc, ici, on s'arrange quand même pour qu'un minimum de 50% de ce que nous recevons comme fonds, comme contribution des donateurs, aille aux opérations sur le terrain.
Mais on garde le mystère sur ces fonds.
C'est pas le mystère sur les fonds. Je vous dis tout simplement que, si nous parlons d'à peu près 30 millions de dollars pour 2008, pour nos opérations en RDC.
C'est exact, 30 millions de dollars pour 2008.
C'est qui a été consommé pour des opérations?
Les opérations, une bonne partie a été consommée. Il y a sûrement un reliquat et nous essayons de faire en sorte que le problème soit réglé au plan de jeu.
Sûrement les reliquats seront reportés pour l'année prochaine.
S'ils ne sont pas dépensés. Parce que comme vous savez, nous sommes dans un pays où on a toutes sortes de programmes. On a des programmes de retour, on a des programmes d'assistance pour réfugiés. Vous êtes allé au Bas-Congo, on a le réfugiés qu'on ramène, on a les réfugiés des autres pays qu'on envoie chez eux. Donc, c'est difficile de vous faire, un bilan.
Oui, juste une curiosité également, parce que là, c'est une question que les gens se posent à la cité. Est-ce que les HCR s'occupent aussi des personnes qui demandent asile? en RDC par exemple, parce qu'il y a des étrangers qui demandent d'asile ici. Comment vous travaillez avec le gouvernement congolais?
Oui, la décision pour accorder l'asile à quelqu'un est prise normalement par le gouvernement, mais en accord avec l'HCR. Donc si quelqu'un se rapproche de la Commission nationale pour les réfugiés ou bien du HCR pour demander l'asile, il existe une commission qui s'assoit et qui écoute, qui interviewe, qui fait des enquêtes et qui décide de donner l'asile.
Est-ce que vous êtes pour aussi des députés dans la matière pour gérer cette question des demandes d'asile?
Nous ne prenons pas beaucoup de députés parce que la collaboration avec le gouvernement est vraiment bon.
Oui. Alors tout à l'heure, vous avez également suivi qu'au nord Kivu, les déplacés fuyant la sécurité dans les Turi continuent d'affluer dans les cités d'Irengiti et d'Oisha, respectivement à 58 km et 30 km nord de la ville de Beni. Ces déplacés sont démunis du tout, ils arrivent depuis la semaine dernière. Alors ils sont en train de fuir les combats. Alors, à votre niveau, au niveau du HCR, est-ce que le HCR prend également en charge ces déplacés congolais?
Ces déplacés congolais qui fuient et qui vont ailleurs dans leur pays sont pris en charge dans le cadre interagence. Le HCR, en tant que co-lead du cluster protection, mais également du cluster retour et intégration, travaille dans le cadre interagence. C'est ces problèmes-là qui sont normalement consignés dans le plan d'action humanitaire, mais également dans les questions de contingence. Hein. On n'avait pas prévu, par exemple, en janvier 2008, que les gens allaient fuir une équipe pour aller ailleurs, du côté de Béni. Je veux vous signaler qu'il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avions aidé, transporté, essayé de réintégrer un Ituri, des gens qui avaient fui l'Ituri avant, pendant les premières guerres, et qui sont restés du côté de Béni. Notre bureau de Béni a organisé le transport de ces personnes-là, les a aidés à rentrer chez eux, avec l'appui des autres agents du système des Nations Unies. On a distribué des vivres, on a distribué un minimum de kits pour permettre à ces personnes de sortir. Donc, notre implication avec l'éducation interne, c'est progressif, ça se concrétise. Mais nous ne le faisons pas seul. Nous le faisons dans le cadre de l'agence. Pourquoi le cadre d'espèce de ceux qui sont en train de tuer actuellement et l'indiquer? Bon, nous venons d'avoir cette information. Le CPIA, par exemple, de Goma, va se saisir de la question. Sûrement, une mission d'interagence va se rendre sur le terrain pour voir les conditions des gens. Et le HCR fait toujours partie de ces missions d'interagence. Et ensemble, on décide de l'aider à la
compétence. Et ensemble, avec d'autres partenaires.
Absolument.
Alors, pour terminer, monsieur Onsoko, nous avons deux réactions qu'on va lire rapidement. Jacques Mahouta, depuis Fizi, nous dit les réfugiés vont perdre leurs parcelles et les champs partis de la terre parce qu'ils sont vendus par les autorités civiles de la place, parce qu'ils sont récompensés par le HCR quand il y a un rapatriement volontaire. Autre réaction, c'est d'un auditeur aussi, il dit « Nous pensons que notre hospitalité nous coûte la vie de nos populations, que le gouvernement prenne sans complaisance cette question comme fait le gouvernement congolais. » Donc une fois de plus, on revient à la situation de ces réfugiés congolais qui viennent de l'Angola. Votre réaction en fonction de ces préoccupations de nos auditeurs?
Concernant les terres, effectivement, la question des terres, comme vous savez, est assez délicate dans les zones de retour, mais je ne suis pas sûr que du côté de Fizi et de Baraka, on a quand même des millions de terres. C'est vrai, il y a des terres qui sont confisquées peut-être lorsque les réfugiés arrivent, mais avec la Commission nationale pour les réfugiés, avec les partenaires des ONG, nous faisons un suivi lorsque les gens rentrent. Parce que des fois, les gens chez eux, quelques temps après, les équipes se rencontrent, se rendent sur le terrain. Et lorsqu'il y a des problèmes pareils, d'abord, je ne suis pas d'accord qu'on dise que la majorité des gens qui reviennent se retrouvent dans cette situation, ce n'est pas juste.
Mais on ne leur remet rien. Qu'est-ce que le HCR leur remet pour qu'ils rentrent, qu'ils recommencent leur vie à zéro?
Le kit est composé de quoi, par exemple?
Le kit est composé de matériel aratoire, de moustiquaire, du minimum pour commencer.
Mais est-ce que c'est suffisant pour commencer une vie à zéro?
Y compris les matériaux de construction.
Est-ce que c'est par rapport aux besoins exprimés sur le terrain? Parce qu'il risque d'avoir tous ces matériels, mais sur le terrain, c'est pas utile. Est-ce qu'il y a une étude, une enquête menée par les HCR ou soit avec la mission interagence en amont avant de remettre les kits?
La question de la décision d'ajouter les kits de formation, les kits de construction a été prise à une réunion tripartite. Et ça, c'est après l'enquête, c'est après l'unification. Et vous avez vu, quand on a ajouté la kit de construction, le nombre de gens qui rentrent est passé de 500 à 1000. C'est vrai, c'est pas la seule, c'est pas la seule raison. Mm-hmm. C'est pas la seule raison pour laquelle les gens. Donc, nous sommes dans un processus d'amélioration progressive du kit que nous donnons aux gens.
Peut-être qu'en 2009, ça va encore changer.
Changer, je ne sais pas. Bon, on peut l'améliorer davantage. Cela dit, le travail dans les zones de retour n'est pas exclusivement le travail de la CR. C'est un travail de développement là, qui doit commencer lorsque les gens reviennent. C'est un travail de consolidation de la paix qui est déjà différent de notre travail au HCR. Donc, là également, nous ne devons pas le faire seul. Nous devons faire appel aux acteurs de développement qui n'allons la main dans la main. Ils s'installent dans les zones de retour pour que les gens ne soient pas obligés de repartir en Côte
d'Ivoire. Onsoko, on va s'arrêter là. Nous rappelons aux auditeurs que vous êtes le représentant du HCR en République démocratique du Congo. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres aujourd'hui, hein, et bon courage.
Merci beaucoup.